Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soco, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soco et Azeka et Fesdamim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain, il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, ils furent effrayés, saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Éphratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui était parti pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shamma. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David son fils, « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ses 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages aux chefs de leurs milliers, tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les 2 armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, « C'est ainsi que l'on fera celui qui le tuera. » Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, « Pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? Ne puis-je donc pas parler ainsi? » Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, ton serviteur ira se battre contre lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va et que l'Éternel soit avec toi. » Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain, il le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je ne suis pas habitué. » Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger, dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et quand il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, blond, et d'une belle figure. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes avec moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens avec moi, je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent jusqu'à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Shaaraïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron, et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leur camp. David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du Philistin. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, « De qui ce jeune homme est-il fils, Abner ?» Abner répondit, « Aussi vrai que ton âme est vivante, au roi, je l'ignore. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. » Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur, Isaïe, Bethléemite. Amen. » Voilà, donc ce récit fait suite à la méditation que nous avons faite il y a quelques semaines. Nous avons vu de quelle manière Dieu a demandé au prophète Samuel de déclarer son choix de David, le fils cadet d'Isaïe, Bethléemite, de la tribu de Juda. On a vu que David était un personnage particulièrement éminent de l'Écriture. Ce roi est celui qui va élargir les frontières d'Israël. C'est lui que Dieu emploiera pour déterminer l'arrangement de ce qui se passera lorsque le temple sera bâti par Salomon. C'est David qui établira les ordres des sacrificateurs et des lévites, des musiciens. Il va, sur la recommandation de Dieu, réorganiser le culte en Israël. C'est sous le règne de David que l'emplacement du temple sera fixé. Et si David ne bâtira pas lui-même le temple de Jérusalem, c'est son fils qui le bâtira, Salomon. Dieu a néanmoins révélé par un écrit de sa main à David les plans de cette maison. David est enfin celui que Dieu emploiera pour rédiger la plupart des psaumes, de ce livre des psaumes que les croyants connaissent bien. C'est une figure tout à fait importante de l'Ancien Testament, de la Bible tout entière. Et David, on l'a vu, nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui préfigure le Seigneur, celui qui règnera, celui qui bâtit sa maison, celui qui règne sur son peuple. David C'est aussi l'ancêtre, selon la chair, du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez que dans le Nouveau Testament, il est souvent appelé le fils de David. Et on a vu de quelle manière donc Dieu a choisi ce jeune homme. On a vu de quelle manière, après l'avoir choisi, après l'avoir fait oindre pour roi, lui avoir donc déclaré sa volonté, sa résolution qu'un jour il régnerait sur Israël, David va accéder à la cour du roi Saül. C'est un roi qui est déchu, un roi qui est rejeté. Et David s'élève, alors qu'en Israël, Saül, lui, va descendre jusqu'à être parfaitement rejeté. Ça nous parle de Christ qui bâtit son œuvre, qui établit son royaume, alors que si Satan, pour un temps encore, demeure le prince de ce monde, eh bien, il est vaincu dans la vie, en tout cas, pour l'instant, de ceux qui ont reçu Christ comme leur Seigneur, comme leur Sauveur. Ici, on voit David exposé à une épreuve redoutable, puisque sur le champ de bataille, il va affronter Goliath, ce géant philistin. Ce sont des événements rigoureusement historiques que la Bible nous rapporte ici, mais bien entendu, comme souvent, ça nous enseigne. Quant à notre vie, il y a des leçons à en tirer pour nous. L'affrontement avec Goliath, c'est une épreuve redoutable à laquelle David va être soumis, lui qui est tout jeune encore. Il va être opposé à ce géant qui fait peur à toute l'armée d'Israël, campée en rang de bataille contre les Philistins, avec la vallée qui les sépare. Mais c'est aussi le moyen que Dieu va utiliser pour révéler David au peuple. C'est ainsi que tout le peuple d'Israël va connaître David. David avait été oint, Dieu l'avait déjà choisi, Dieu avait manifesté son choix. Il faudra attendre encore un peu pour que David soit révélé au peuple. Et il faudra attendre plus longtemps encore pour que, de manière effective, il règne. Ça nous parle du Seigneur Jésus-Christ. Il est loin de l'Éternel. Celui que Dieu a choisi et établi pour nous sauver. Mais, voyez-vous, il y a un moment où Dieu décide de le révéler dans nos vies. Et lorsque Dieu révèle son Fils, bien, recevons-le. Pas ne fermons pas notre cœur, soyons pas de ceux qui repoussent, soyons pas de ceux qui remettent au lendemain. Non, s'il plaît à Dieu de révéler en vous son Fils, de vous révéler l'amour de Jésus-Christ, recevez-le aujourd'hui. Puis viendra un jour où son règne sera révélé, comme le règne de David. Et il est écrit que ce jour-là, il fondera, il établira de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Un trône éternel lui sera donné. Et dès à présent, vous pouvez le recevoir pour être de cela lorsqu'il établira son royaume. Alors, David va être révélé, et finalement, dans cette victoire de David sur Goliath, on s'aperçoit qu'il y a tout un parcours qui n'a pas été révélé aux yeux de tous, mais c'est l'aboutissement de tout un parcours. David a derrière lui plusieurs années, et c'est ce qu'il a vécu pendant ces années qui lui permettra ce jour-là de remporter la victoire sur Goliath. Ne cherchez pas ce texte, je vous le lis dans le psaume 78. Il est écrit que Dieu a choisi David, son serviteur, et l'a tiré des bergeries, et qu'il l'a pris derrière les brebis qu'il allait pour lui faire paître Israël, son peuple. C'est-à-dire qu'avant d'être roi, avant de combattre Goliath, David a eu tout un parcours caché, que Israël n'a pas connu, que les yeux des hommes n'ont pas vu. Mais c'est néanmoins ce parcours-là, c'est tout le chemin parcouru qui va lui permettre, au jour où Goliath jette ce défi à Israël, eh bien, de remporter sur lui cette victoire éclatante. Alors quel est ce parcours caché de David ? C'est l'instruction qu'il reçoit de ses parents, l'instruction qu'il reçoit d'Isaïe, c'est l'instruction qu'il reçoit de sa mère. Vous savez que Dieu s'était révélé à Israël, avait révélé sa parole, ses commandements, les Écritures, et avait recommandé à tous parents en Israël de les inculquer, ces commandements, aux enfants. Et c'est ce qui s'est passé dans le foyer d'Isaïe. Isaïe n'était pas un père parfait. On voit qu'il a ses errements. Il aurait choisi Eliab. Le choix de Dieu, le choix de Samuel s'opère finalement contre la vie, en quelque sorte, d'Isaïe. Mais ça n'empêche que il s'est acquitté de sa fonction de père. Il a inculqué les commandements de Dieu à son fils. David n'est pas un étranger à la loi de Dieu. Vous voyez, si Dieu vous a fait la grâce de naître dans une famille chrétienne, remerciez en Dieu, remerciez Dieu pour cela. Et quand bien même un enfant, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, ferait ce constat, mes parents, quoique chrétiens, ne sont pas parfaits, c'est sans doute vrai, car nous avons tous du chemin à faire, bien que ça ne vous empêche pas de recevoir de leurs mains et dans leur amour les commandements de Dieu qu'il les a choisis de vous transmettre, dans la foi. Donc David reçoit ces commandements. David a toute une expérience derrière lui en tant que berger. On voit ici qu'il gardait les brebis. Il va, pendant le temps qu'il passe sur le champ de bataille, confier d'ailleurs la garde des brebis à un gardien. Il n'était pas question pour David de s'absenter en laissant les brebis sans surveillance. C'est un berger consciencieux. Et là aussi, Dieu avait déjà commencé à œuvrer, à travailler à travers cette occupation de berger, de surveillant des brebis. Dieu enseignera à David des choses qui lui seront utiles lorsqu'il s'agira de paître, cette fois non plus des troupeaux de brebis dans un désert, mais de paître le peuple d'Israël. David, enfin, lorsqu'il est berger, aura à faire face à des dangers. Il parlera ici, quand il parle avec Saül, du lion, d'ours, qui parfois attaquaient le troupeau. Et imaginez ce jeune homme qui se dressait contre le lion et l'ours pour les faire lâcher prise, pour protéger le troupeau, et les mettait en fuite. Parfois tuait même ces animaux sauvages. Voilà, sans doute, Dieu n'était-il pas étranger à cette affaire. David rendra ce témoignage que Dieu l'avait délivré de la patte de l'ours, de la griffe du lion, et David apprendra la foi. Vous voyez, personne ne l'avait vu, quelque chose qui n'apparaissait pas au grand jour, quelque chose qui n'apparaissait pas devant Israël, mais David l'avait vu. Il y avait ce travail, il y avait toute cette école, il y avait tout un progrès, tout un parcours. Et il y a des choses dans nos vies que les hommes ne voient pas, mais elles sont réelles. Dieu les voit. Dieu les voit. Il y a certains domaines de notre vie qui relèvent de la plus stricte intimité entre Dieu et le chrétien, même dans le ciel. Même dans le ciel, le Seigneur parle d'un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Bien, cultivons notre relation avec Dieu, apportons-lui nos craintes, parlons-lui, cherchons son secours, et au jour de la difficulté, nous nous en trouverons bien. David n'a pas cherché à s'élever, il n'a pas cherché à briller, même à partir du moment où il a été oint. Vous vous souvenez que, oint devant tous ses frères, il a été saisi à partir de ce jour par l'Esprit de Dieu, dans ce jour-là, et par la suite. Mais David, à partir de ce moment-là, même à partir du moment où il est oint, ne cherchera pas à briller, ne cherchera pas à provoquer les choses. Et ici, eh bien, il s'acquittera tout simplement d'une mission supplémentaire que son père va lui confier. Il n'a pas été jugé digne. Lui qui a été déjà oint, qui a reçu l'onction royale, il n'a pas été jugé digne d'être envoyé sur le champ de bataille parce qu'il est trop jeune, parce qu'il doit garder les brebis. Et ici, son père lui confiera tout simplement cette mission d'aller vers ses frères, prendre des nouvelles et apporter quelques fromages au chef de milliers. David ne cherchera pas plus que cela, il ira sans discuter pour accomplir l'ordre de son père. Encore une fois, ça nous parle de l'humilité du Seigneur Jésus-Christ qui est venu pour accomplir non sa volonté mais celle du Père Céleste. Ça nous parle aussi de ce que nous sommes appelés à rechercher, non pas à nous élever, non pas à briller, non pas à rechercher au travers de quelques actions visibles, l'admiration, l'approbation des hommes, mais nous acquitter de ce que nous comprenons être bien à la lumière de la parole de Dieu. L'arrivée de David sur le champ de bataille, il va se retrouver face à une situation où, cette fois, David sera placé à la vue de tous. Ce n'est pas lui qui l'a cherché, mais c'est Dieu qui le conduit ainsi. Il faut que David soit révélé à Israël pour que, enfin, la parole commence à s'accomplir. Il faut qu'Israël connaisse David pour qu'il règne. Et au milieu de bien des combats, car il va devoir mener bien des combats, c'est son cœur qui va être révélé. Alors il arrive au milieu de l'armée et nous avons remarqué cette précision. Il nous a dit que l'armée d'Israël poussait de grands cris, des cris de guerre. Il y avait donc beaucoup de bruit, il y avait donc une apparence de grande force, Mais en réalité, lorsque Goliath, ce géant philistin, c'est un homme dont les mensurations dépassaient le commun des hommes, lorsque Goliath apparaissait sur la scène et dans la vallée, bien, il jetait un défi à l'armée d'Israël, et nous voyons que le témoignage de l'Écriture est que chacun avait peur. Personne d'entre l'armée d'Israël n'avait le courage, pas même Saül, de descendre dans la vallée pour relever le défi du Philistin. On voit donc Goliath qui, pendant 40 jours, jette ce défi. Alors Goliath, bien sûr, il a existé comme il nous est dépeint. Il y a la valeur historique de ces faits, mais au travers de ces choses, Dieu nous parle. De quoi nous parle Goliath ? Il nous parle de ce qui nous fait peur. Il nous parle de ce qui remplit le cœur de crainte. Vous savez que malgré les prétentions et malgré les capacités des hommes, nous sommes tous confrontés à des choses que nous craignons. Même les gens qu'on pourrait être tentés d'admirer à cause de leur grande force, à cause de leur force de caractère, bien, ils ont tous leurs craintes. Même des gens qui nous impressionnent, face aux questions que pose la vie et que pose la mort, ils ont leurs craintes. Ils ont leurs craintes. On dit de Jean Gabin, hein, cet acteur du cinéma français qui en imposait par sa carrure, par sa voix, que chez lui, il était connu comme un homme qui était rempli de craintes. Il avait notamment extrêmement peur de monter sur des échelles. Et je ne sais pas ce qui nous fait peur, mais il y a certainement dans notre cœur des choses que nous redoutons. Puis il y a la mort. Il y a la mort que la Bible appelle la reine des épouvantements. Vous voyez, elle dit que l'homme sans Dieu, l'homme sans Christ, pendant toute sa vie, est retenu prisonnier par la crainte de la mort. Et c'est pourquoi nous avons besoin, comme David, d'apprendre à nous confier en Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous appelle. Voilà pourquoi, qui que nous soyons, il nous adresse un appel. Lui qui n'humilie pas volontiers les enfants des hommes. Lui qui a tant aimé le monde, qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, nous appelle pour être délivrés, n'est-ce pas, de nos péchés, de leurs conséquences. Leurs conséquences présentes et éternelles. Et il fait cette promesse, celui qui croit en lui, à la vie éternelle. Et voyez-vous, ce que nous craignons, eh bien, il nous en délivre par Jésus-Christ. Et le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Non, le chrétien n'a pas à craindre la mort. La mort même est un ennemi vaincu pour le chrétien. La promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Ce dont il a donné à tous une preuve certaine en ressuscitant Christ d'entre les morts. Voyez, quelle assurance, lorsque nous voyons le ciel s'ouvrir, lorsque nous recevons par Jésus-Christ qui s'est chargé de nos péchés, l'assurance que même la mort n'est plus une défaite, mais l'occasion de retourner au Père Céleste qui nous recevra dans sa gloire pour toujours. Je me souviens du témoignage de ce jeune homme qui, pendant des mois, des années, suite à une vie terrible qu'il avait menée, il s'était drogué, s'était livré à la méditation transcendantale, il avait touché à toutes sortes de choses, ce jeune homme écoutait de la musique satanique parfois, qu'on appelle le hard rock. Et à cause de toutes ces choses et à cause d'un concours de circonstances, il avait fini par tenter de mettre fin à ses jours. Et à partir de ce jour-là, ce jeune homme a vécu quelque chose de terrible. Toutes les nuits, tous les soirs, quand il se couchait, il se réveillait en sursaut à la pensée de la mort. C'était plus fort que lui, il ne contrôlait plus cela. Et Dieu a dirigé les circonstances de sa vie pour qu'il entende l'Évangile. Alors, ça a mis un certain temps. Ce jeune homme était en proie à toutes sortes de combats intérieurs, puis il a fini par se convertir, il a fini par ouvrir son cœur à Christ et à accepter le salut. Et puis un jour, il revenait d'une réunion, d'un culte, comme ce matin, et là, il était là, chez ses grands-parents, et il s'est mis à sauter. Il sautait littéralement de joie, c'était pas du tout son tempérament, c'était un jeune homme calme, réservé, il sautait littéralement de joie, et ses grands-parents lui ont dit « Mais qu'est-ce que tu as ?» Et il leur a dit « Mais je suis sauvé !» J'ai reçu l'assurance que mes péchés étaient pardonnés et, voyez, alors que pendant si longtemps, la crainte de la mort était pour moi une véritable souffrance, une véritable torture, bien, je vois comme l'éternité s'ouvrir, j'ai compris qu'en Christ, L'éternité m'était ouverte. J'ai la vie éternelle. Voyez, Christ est celui qui nous délivre de la mort, de ce qui triomphe de nous, il nous délivre du péché, il nous délivre de ce qui remplit notre cœur de crainte. Revenons-en à David. Lorsqu'il entend Goliath jeter un défi à l'armée d'Israël, son cœur s'enflamme et il va être saisi de colère. Il y a parfois des colères légitimes. Et David s'enflamme de colère devant ce Philistin qui jette un défi à l'armée d'Israël, un défi que personne ne va relever. Et David, quoi qu'il ne soit pas venu pour cela, va relever ce défi et va dire, puisque personne n'y va, moi j'irai. Il n'est pas question de laisser Goliath continuer à jeter ce défi à l'armée d'Israël. On remarque qu'à partir du moment où David va relever ce défi, il va être exposé à la jalousie de ses frères. Parce qu'il nous est dit que ses frères aînés vont le juger, vont interpréter les sentiments de son cœur, et David sera exposé à leur jugement. Il va également subir le mépris. Subir le mépris, puisque Israël, son propre peuple, ne verra en lui qu'un enfant et ne croira pas dans la capacité de David à relever le défi du géant. Ça nous parle de la réaction des hommes lorsque Christ est venu sur la terre. Il a suscité la jalousie des pharisiens. Il a été livré entre les mains des païens à cause de la jalousie qu'il suscitait au milieu des grands de son peuple. Il a été méprisé, abandonné, homme de douleur et habitué à la souffrance. Et nous aussi d'une manière ou d'une autre, dans la mesure où nous avons à cœur de faire ce que nous comprenons être bien, d'une manière ou d'une autre, nous aurons à être exposés à la jalousie, à la calomnie, écrira Pierre, et parfois au mépris. Mais David se confie en Dieu. David se confie en Dieu et il sera secouru, malgré tout le jugement et le regard que les hommes portent sur lui. Remarquons que tous ceux qui le méprisaient, plutôt aucun de ceux qui le méprisaient, n'avait osé descendre à la rencontre de Goliath. Et une pensée, bien sûr, qui nous interroge tous, puisque Paul dira aux Corinthiens que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. David finira par convaincre Saül de le laisser aller. Il fallait que cette grande armée d'Israël soit parvenue à un triste état pour mépriser David comme il le faisait et finalement lui permettre d'aller à la rencontre de Goliath. On revêtira David de l'armure de Saül, une armure lourde à laquelle il n'est pas habitué. Il demandera en être débarrassé, il dira « je n'y suis pas habitué ». Ça nous parle bien sûr de l'inefficacité, de tout ce que l'homme peut inventer, de tout ce que l'homme peut fabriquer pour venir à bout de ses adversaires véritables, ses ennemis spirituels. Vous savez, rien de ce que l'homme ne peut produire n'est capable de nous délivrer devant la mort, devant la puissance du mal dans nos vies. C'est pas possible. Ni la morale, ni la religion, ni nos bonnes résolutions, ni la richesse, ni l'instruction ne peut nous être d'un quelconque secours devant ces ennemis-là. Mais les armes de David, bien, qu'est-ce que ce sera? Ce sera une fronde. Cinq pierres polies. Il nous est dit que Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Pourquoi? Pour que personne ne se glorifie devant lui. Pour que nous reconnaissions pleinement notre besoin de son secours, notre besoin de dépendre de lui. Alors certains interprètes, certains commentateurs ont voulu voir dans cette fronde ces cinq pierres polies glissées dans la gibecière. Une image des expériences cachées de David. On a voulu voir dans ces cinq pierres polies l'image de l'expérience de ce jeune homme et, n'est-ce pas, l'érosion que produisent les épreuves sur notre cœur et sur notre vie, pourquoi pas? Mais ça nous parle surtout de la faiblesse de David. Il n'y va pas avec sa force, il n'y va pas en pensant que lui-même va pouvoir apporter par sa force la délivrance. Il s'avance simplement au milieu de cette vallée, au vu et au su de tous, parce que les deux armées le regardent, il entendra les malédictions, les menaces de Goliath, qui lui aussi le jugera comme un enfant, c'est le même jugement que celui de Saül. Et il s'avance avec cinq pierres dans sa gibecière de berger, et dès que le combat s'engage, bien, il nous est dit que David va prendre une pierre, la mettre dans sa fronde, l'envoyer, il va toucher Goliath au front, et Goliath va s'abattre. Vous voyez, c'est Dieu qui agit. Ce n'est pas tellement David, mais c'est Dieu. Il était important que Goliath soit abattu. Il était important qu'il soit abattu avec des armes faibles pour que Dieu montre que c'est lui qui était derrière ce fait. Il était important que la première pierre atteigne son but pour montrer que derrière le trajet de cette pierre polie, c'était la main de Dieu qui agissait. Il était important que Dieu révèle aux armées des Philistins, mais aussi aux armées d'Israël, qu'il agissait pour les secourir. Il était important que Dieu manifeste à Israël qu'il était avec David, parce que c'est Dieu qui avait choisi David et qui avait déterminé de l'élever. Voyez, confions-nous en Dieu. Confions-nous en Dieu, malgré notre maladresse. Voilà, si c'est lui qui nous dirige, il saura nous faire atteindre notre but. Dieu est souverain. Dieu est parfaitement souverain et il est digne qu'on s'appuie sur lui. Je pense là, subitement, à ce témoignage, un jour, d'un serviteur de Dieu qui venait d'apprendre à l'hôpital une nouvelle grave. On venait de lui apprendre que son fils était atteint d'une maladie incurable. Et ce serviteur de Dieu était avec sa femme. Il y a parfois ces nouvelles terribles qui peuvent nous atteindre, même quand on est chrétien. Et le serviteur de Dieu rapporte qu'ils sont partis de cette chambre d'hôpital où on leur avait annoncé la nouvelle. Et il dit, mais on ne s'est pas parlé, ni ma femme, ni moi. On a descendu les escaliers. Et même si on avait voulu s'inquiéter, on n'aurait pas pu. Il y avait une paix qui était là avec nous, qui nous gardait. Il y avait l'assurance qui était créée là par l'Esprit de Dieu, que Dieu allait intervenir. Et c'est effectivement ce qui s'est produit, puisque Dieu a étendu sa main. Dans les mois qui ont suivi, l'enfant a été guéri. Mais on retient cette expérience, c'est glorieux, ça, quand Dieu met sa paix en nous. Et quand bien même il ne le fait pas de cette manière-là, bien, demeurons établis sur les promesses de Dieu. S'il permet des choses qu'on ne comprend pas, qui nous troublent, qui nous amènent à craindre, bien, rassurons-nous par sa parole. David, le même David, écrira « Quand les pensées s'agitent en foule, au donnant de moi ta bonté, me sert d'appui. » Voilà. Et ce sont les consolations de Dieu qui réjouissent notre âme. David courra vers le géant Goliath, il est étendu à terre, il est abattu à cause de la pierre de sa fronde, et il faut que sa victoire soit rendue manifeste. Il faut que tout Israël voie que Goliath, celui qui l'est terrorisé, est mort. Il va donc lui couper la tête. Voilà, c'est terrible, mais c'était ainsi, il fallait le faire, sinon ça marquait la défaite du peuple et cela scellait la mort de plusieurs autres personnes en Israël. Ça nous parle bien sûr de l'accomplissement de la parole de Dieu au serpent dans le jardin d'Éden. Vous savez que Dieu va parler au serpent après la chute d'Adam et d'Ève et lui dira « Je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme, elle t'écrasera la tête et tu la blesseras au talon ». Il nous parle de la mort de Christ qui atteint l'adversaire de notre âme à la tête. Béni soit Dieu de ce qu'en Christ, nous sommes délivrés du pouvoir et de l'autorité de l'adversaire de notre âme, Satan. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et ça va se produire, ça, avec la propre épée de Goliath. Puisque David n'était pas armé, il n'avait que sa fronde et ses pierres polies. Et une fois encore, ce que l'on retient, bien c'est que David va remporter la victoire sur son adversaire avec ses propres armes. Le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Si la Bible, tout entière, nous encourage à être vigilants, à veiller, pour résister au diable dont l'existence et les agissements sont réels, elle ne nous enseigne pas, en revanche, à le craindre, dans la mesure où, avec l'aide de Dieu, nous demeurons près du Seigneur pour lui être fidèles. Nous serons près de lui, bien gardés. Puis on termine sur la méditation de cet événement clé de l'histoire d'Israël, de la vie de David, bien en retenant surtout cette pensée. Vous voyez, c'est le parcours caché de David, qui va lui permettre, au jour de l'affrontement, il n'était pas préparé. Il n'était pas préparé forcément quand il monte, quand il descend dans le champ de bataille pour apporter au chef des armées quelques fromages pour prendre des nouvelles. Ils n'étaient pas préparés à l'idée de ce qui allait se produire. Et il y a parfois des choses dans la vie, on n'a pas le temps de s'y préparer. Mais avant, vous voyez, David avait pris soin, avant, bien d'être près de Dieu. Il avait pris soin avant de chercher le secours de Dieu. Et au jour où là, sa foi va être mise à l'épreuve, eh bien, il triomphera. Nous aussi, demeurons près de Dieu. Demeurons près de Dieu. On ne sait pas de quoi demain sera fait, jour de joie, jour de consolation, jour d'épreuve, jusqu'à ce que nous rencontrions cet ennemi final, la mort. Bien, béni soit Dieu de ce que, dès à présent, si nous nous approchons de Christ, nous recevrons la force, au jour où nous l'affronterons, d'en être victorieux. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, disait David, parce que tu es avec moi. Béni soit Dieu, c'est la réalité. La réalité, il l'a donnée à tous, une preuve certaine de ces choses en ressuscitant Christ d'entre les morts. Que Christ, n'est-ce pas, soit l'objet de nos pensées, que nous apprenions de lui à nous affectionner aux choses d'en haut, et au jour où nous devrons mener, nous aussi, nos combats, il sera avec nous dans la bataille. Que Dieu nous bénisse richement, que sa force soit avec nous, nous aussi, alors qu'il nous appelle, comme il a appelé David, nous appelle à nous rendre vers notre divin berger, bien qu'il nous garde persévérant dans la foi. On pourrait se recueillir et prier le Seigneur, lui rendre grâce.